Salut tous dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse richement. Avant de lire quelque chose pour ce soir, Père Alain, ça va? Dieu te bénisse. Non, c'est pour demain. Ah, le frère part demain. Entre au Congo. Nous prions pour lui. Ah, parce que c'est pour des circonstances très difficiles pour lesquelles il est venu. Et je crois que ça ne s'arrête pas en rentrant. Toi, il aura besoin de nos prières. En tout cas, que le Seigneur t'accompagne, que le Seigneur te bénisse. Ma grande sœur n'est pas là. Tu le lui transmettras. Vous partez tous les deux, hein, je crois. Elle reste encore, d'accord. Ça va, nous allons prier. Père Céleste, nous te remercions ce soir pour nous avoir réunis encore, pour nous avoir rassemblés. Et chaque fois que tu assembles ton peuple, c'est parce que tu veux lui parler, soit pour le mettre en garde, soit pour l'encourager, soit pour l'instruire. Selon ce que tu as prévu aujourd'hui, fais-nous grâce, Seigneur, oh Dieu, en nous honorant ta présence, en voulant bien nous parler, que nos oreilles soient attentives. Nous te remercions pour ton serviteur qui est parmi nous. Il est venu pour un devoir difficile qu'il avait à accomplir. Et nous te sommes reconnaissants que tu l'aies soutenu. C'est vrai, ça n'a pas été au-delà de ses forces, ce qui lui a fallu comme force, tu lui as donné. Et nous te prions de le garder encore, que tu le raccompagnes alors qu'il rentrera. Que tu lui mettes toujours des pensées d'espérance dans le cœur. Que ta grâce soit vraiment avec lui. Que tu le bénisses, que tu bénisses son départ, son voyage ainsi que son arrivée et son séjour au Congo. Nous te demandons d'être avec nous ce soir. De nous instruire, s'il te plaît, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous t'avons prié. Amen. Amen. Hier, vous avez un peu vu ce qui est tombé hier comme pluie. Alors, je lisais une lettre circulaire que Frère Franck avait écrite en 2005. J'ai repris un peu le titre qu'il avait donné. C'était suite au tsunami qui avait sévi en Asie en 2004, fin 2004-2005. Et il avait un peu repris toutes ces choses qui arrive, je crois, et ça, nous les croyants, nous devons regarder cela avec des yeux de chrétiens, comme étant des hommes avertis. Ça va? Parce que hier, ce qui est tombé en quelques secondes, c'était tout simplement impressionnant. Et Il y a eu aussi une tragédie, je ne sais pas si vous l'avez appris. Maman emmenait son bébé dans le parc ici à Uccle. Moi, j'ai tombé sur le bébé de 2 mois. Elle a perdu son bébé. Ce sont des temps difficiles. Ces choses arrivent pour nous prévenir. Pour nous prévenir de quoi? C'est ce que nous allons voir. Nous allons nous lever, nous allons lire dans Matthieu 24, un seul verset, le 25, c'est « Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. » Amen. C'est « Je vous l'ai annoncé d'avance. » Vous pouvez vous asseoir. Ceux à qui s'adressait, c'était ses disciples. C'était le privilège des disciples. Et c'est toujours, ça a toujours resté le privilège des disciples. Si vous voulez devenir un de ses disciples, ce privilège est pour vous également, qui vous annonce des choses à l'avance. Au verset 3, nous voyons, il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement, donc de ta venue et de la fin du monde. Et il va commencer, il va leur répondre, il va répondre à ces trois questions qui sont posées. Les disciples, pour être disciple, nous savons, il faut porter beaucoup de fruits. Il y a sept conditions pour être disciple que Jésus-Christ a donné. Et qui ça? L'aveugle né pose la question aux pharisiens en disant, ça fait trois fois que vous me posez la même question. Je vous ai répondu. Vous voulez devenir ses disciples? Et cette question, nous l'avons posée ici à l'Assemblée, si nous voulons être ses disciples. Si nous voulons être ses disciples, nous avons justement ce privilège-là qui est pour nous. Et ce n'est pas facile de rester disciple du Seigneur. Parce que les choses qui sont dites, elles sont cachées aux sages et aux intelligents. Et elles sont difficiles à comprendre. Il arrive à un moment donné où, lorsque certains n'arrivent plus à suivre, ils s'en vont. Ils quittent. Et c'est fait à dessein. Comme nous sommes un peu dans le domaine de l'élection, l'élection fait ça. Fait que les élus restent, ceux qu'il a choisis restent, ceux qu'il n'a pas choisis s'en vont. Jean chapitre 6. Verset 60, plusieurs de ses disciples, il en avait plusieurs, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, c'était ses disciples, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien, ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Il savait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Donc, si vous êtes aujourd'hui un suiveur de Jésus-Christ, cela vous est donné. C'est un privilège qui vous est donné. Parce qu'au 66, nous lisons, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent. Amen. Plusieurs s'en sont allés et ils n'allèrent plus avec lui. Jésus donc dit aux 12 qui sont restés, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Maintenant, le Seigneur lui dit clairement, ce n'est pas ça qui fait que tu es toujours là. Si tu es toujours là, la réponse est ceci. Jésus le répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Vous les 12. Et l'un de vous est un démon. Et ce démon devait accomplir le travail pour lequel Dieu l'a choisi, pour lequel Dieu l'a oint. Il a été oint pour ça. Hein, c'est facile de dire, un tel est un oint, un tel est un loin. Maintenant, il faut savoir, vous êtes oint pourquoi? Quand vous êtes oint dans un but. Christ a été l'élu de Dieu, il a été oint pour une mission qu'il avait dans Luc 4. Il dit ceci, au verset 16, il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. » Il t'a oint pourquoi ? Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il t'a oint pourquoi ? Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pourquoi encore ? Pour proclamer aux captifs la délivrance. Pourquoi encore ? Pour donner aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour renvoyer libres les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Il a été oint dans ce but-là. Et si vous dites que vous êtes oint dans un but. Et regardez bien ce que vous faites. Si vous faites selon la volonté, selon le salut que Dieu donne, c'est que vous avez été oint pour le salut. Mais si vous êtes, si vous faites le travail du diable, vous avez été oint pour faire ce travail-là. Qui ça? Judas a été oint en tant qu'il était démon, mais il a chassé des démons. Il a prié pour des malades, mais à un moment donné, eh ben, Judas a trahi le Seigneur. Il fallait qu'il soit là, le fils de la perdition, tel qu'il est appelé. Alors, lors de la première venue de Christ, tout ce qu'il répond... Non, pas encore. Lors de sa première venue, beaucoup de promesses qui avaient été annoncées d'avance, beaucoup d'écritures qui avaient été annoncées d'avance, longtemps à l'avance, tout ce qui avait été annoncé à l'avance pour cette génération-là, du temps où Jésus-Christ marchait sur la terre, on le voyait s'accomplir. Et ce n'est pas pour rien que vous voyez beaucoup d'écritures, je n'en ai pris que deux, mais il y en a plein dans la Bible, vous en avez déjà rencontré. Si on prend par exemple Matthieu 12, juste pour que nous puissions comprendre. Matthieu 12. Verset 14. Les pharisiens sortirent et ils se consultèrent sur les moyens de le faire périr. Mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu. Une grande foule le suivit. Il guérit tous les malades et il leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Ça avait été annoncé depuis longtemps. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon élu. Amen. C'est dans Ésaïe 42, ça. Mon bien-aimé, en qui mon âme a pris plaisir, je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. Donc, tout cela avait été annoncé d'avance. Et ça s'accomplissait sous leurs yeux. Dans Matthieu 26, par exemple, il y en a plein. Dans Matthieu 2, 5, il y a, vous pouvez toujours écrire tout cela, il y a beaucoup d'écritures qui annonçaient la première venue du Seigneur, et ça s'était accompli en ce temps-là. Et les conducteurs religieux n'y voyaient que du feu. Que nous ne soyons pas de ceux-là qui ne voient que du feu, que nous puissions reconnaître que ce sont des choses qui ont été annoncées pour notre temps à nous, certaines choses. Verset 56 dans Matthieu 26. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes soient accomplis. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Ça aussi, ça avait été annoncé d'avance. Ça va? Et aujourd'hui, en tant que disciples du Seigneur, c'est-à-dire ceux qui ont été choisis, nous ne pouvons pas ignorer les événements qui se déroulent sous nos yeux. Nous devons les reconnaître. Par contre, ceux qui n'ont pas été choisis s'en sont allés ou bien s'en iront. Si nous sommes choisis, nous ne pouvons pas ignorer que tout ce qui se passe est conforme à la parole de Dieu. Et vous remarquerez que l'homme, sans le savoir, l'homme lui-même est en train d'accomplir ce que Dieu a dit qui arriverait. L'homme ne le sait pas. Ils sont là à se plaindre sur le dérèglement climatique. Mais le dérèglement climatique vient d'où ? Vient de l'industrialisation, vient de gaz à effet de serre que nous rejetons à cause de nos productions, soit que nous dégageons avec nos voitures et toutes ces choses. Eh bien, c'est l'homme qui en est l'outil pour que la parole de Dieu s'accomplisse. Et nous devons être vigilants et reconnaître ce qui se passe. Et les événements qui se passent aujourd'hui sur la terre ébranlent le monde. Jésus répond dans Matthieu 24, quand il a commencé à répondre, verset 4, Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. » Ce sont des choses qui arrivent aujourd'hui. Vous entendrez parler de guerre. On en entend un peu partout. En Israël, on va commencer par là. En Ukraine, au Congo, au Soudan, il y a des guerres pratiquement dans chaque continent. Oui. Aujourd'hui, des guerres, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Vous noterez que ça fait partie d'un des signes de l'avènement, de la venue du Seigneur. Car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation. Nous voyons cela. Et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Or, les douleurs de l'enfantement, lorsque les douleurs de l'enfantement viennent, elles commencent d'abord petites et puis elles commencent à devenir de plus en plus fortes. Et si elles deviennent de plus en plus fortes, ça veut dire que le bébé est prêt à naître. Et ici, les douleurs, c'est comme des douleurs de l'enfantement, la venue du Seigneur provoque aussi ces douleurs-là, c'est-à-dire que ça a d'abord commencé petit à petit. Maintenant, ça semble s'amplifier. Ça ne semble même pas, ça s'amplifie. Pour ce soir, on pouvait prendre les guerres, les bruits de guerre et tout cela, en parler, mais on va juste se limiter aux catastrophes naturelles. Ou certaines choses telles qu'elles se passent, pour les guerres, il y en a. Alors, j'ai pas pris mon GSM, mais je n'ai pas. Il y a un article, si vous voulez, je peux le mettre dans le groupe WhatsApp de l'Assemblée, où il est question du dérèglement climatique. Mais on va se limiter à ça. D'abord, passons par les inondations. Ou voir. Hier, c'est avant-hier, j'entendais, on disait à la radio que le mois de juin qui vient de se terminer a battu un record de réchauffement, plus 1,6 degré en moyenne, alors que nous ici, nous avions froid, n'est-ce pas? Mais il y a eu des records de température. Un autre frère est parti en Espagne, là-bas, dimanche, il m'a dit, il fait horriblement chaud pour le moment. Et il y a des pics de chaleur. Au Congo, vous pouvez demander aux frères là-bas derrière, pendant la saison de pluie, ils ont souffert de chaleur. Il y a des pics de chaleur un peu partout dans le monde. Il y a des pluies abondantes qui entraînent des inondations, des coulées de boue qui entraînent des désolations. Toutes ces choses se défilent devant nos écrans, et nous les voyons se passer. Pour le moment, chez nous, par exemple, au Congo, ça se calme un peu, car c'est la saison sèche, mais dès que la saison chaude va revenir, eh bien, Les pics de température vont revenir. Les gens, comment vont vous dire, il n'a jamais fait aussi chaud. Record mondial donc de température, selon un fameux rapport qu'eux-mêmes ont donné. En France, il y a eu, comment dirais-je, des records de température, d'abord dans le sud de la France, alors qu'au nord, ce n'était pas le cas. En Belgique, cette année-ci, nous sommes épargnés, quoique l'été n'est pas encore terminé. Et même si l'été n'est pas terminé, on n'a quasiment pas eu d'hiver cette année-ci. On a eu un hiver plus ou moins chaud. Ça va? Il y a les glaces qui fondent. Et ces glaciers qui fondent provoquent quoi? Des inondations. En Grèce, je note, hein, en Grèce, il y a eu des records de température 44 degrés. J'aime la chaleur, mais il ne faut pas exagérer. 44 degrés. Ils ont fermé les écoles, fermé l'acropole pour les touristes. Ça n'allait pas. En Arabie Saoudite, 51,8, donc près 52 degrés. À cause de ça, 1300 pèlerins sont morts. Pèlerins qui sont partis à la Mecque. Morts par malaise. Des inondations catastrophiques au Kenya. L'Afrique n'est pas épargnée. En Afghanistan, en France, regardez aux États-Unis, l'ouragan Beryl, n'est-ce pas? A déjà fait hier, ils ont compté 8 morts aux États-Unis. 7 au Texas, 1 en Louisiane. Et de fortes chaleurs, impliquant, il y a aussi de fortes chaleurs, toujours aux États-Unis, impliquant des incendies et au Mexique, des incendies de forêt. En Belgique, vous avez vu l'orage qui a sévi hier. Tout ça pour dire que nous vivons visiblement les événements annoncés, les événements annoncés par Jésus-Christ. Il y a un dérèglement certain. Et ce dérèglement est là pour nous, pour attirer notre attention et nous préparer. Pourquoi? Parce qu'il dit ceci, mais avant d'y arriver, nous devons savoir que vous savez, une pluie comme celle qui est tombée hier, accompagnée de grêle, souvent ce sont des pluies qui annoncent un jugement qui est imminent, qui va arriver. Ésaïe 30. Verset 30, on va juste lire là. Vous pouvez lire tout le reste. C'est un jugement que Dieu prononçait sur les Assyriens. Et l'Éternel fera retentir sa voix majestueuse. Il montrera son bras prêt à frapper dans l'ardeur de sa colère, au milieu de la flamme d'un feu dévorant, de l'inondation, de la tempête et des pierres de grêle. Les grêles sont tombées. Toutes ces choses nous annoncent un jugement imminent. Mais avant le jugement, il y a une promesse que les croyants ont. Les croyants, tous ceux qui croient au Fils unique de Dieu qui a été envoyé, ne passent pas en jugement. Ils sont passés de la mort à la vie. Dans Matthieu 24, il revient. Jésus dit, Donc, tout cela, au verset 8, nous l'avons lu, ne sera que le commencement des douleurs. Ce n'est que le commencement. Et au verset 9, alors on vous livrera au tourment. Ça, c'est, si on regarde les sceaux, on verra, ça ne concerne plus l'Église. Mais ce que nous voulons voir ce soir, c'est ce qui concerne l'Église. Dans Matthieu 24, toujours 32, Jésus dit, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces catastrophes, quand vous verrez ce qui a été annoncé d'avance, quand vous verrez cela commencer à s'accomplir, sachez que le Fils de l'homme est proche. Amen. À la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point. Quelle génération? La génération qui voit ces choses arriver. Et tant que ces choses-là sont en train d'arriver, la génération n'est pas encore terminée. Cette génération-là ne passera point, n'est-ce pas, que tout cela n'arrive. Ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Aussi, Dieu nous exhorte ce soir, à travers des Écritures, dans Luc 21, verset 25. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations. Ce qui se passe aujourd'hui, en voyant ces choses arriver, si les nations ne se posent pas de questions, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Mais nous les voyons se réunir de congrès en congrès. Congrès pour le climat, hein, pour la défense du climat. Ils essaient de limiter l'augmentation de la température moyenne par an de 1,5. Mais cette année-ci, ils ont dépassé 1,6. Vous allez dire, c'est juste tout petit. Oui, mais c'est assez pour faire fondre les glaciers. Et les glaciers sont en train de fondre. Ça prépare à quoi? Aux inondations. Il y a des îles entières qui vont disparaître. Des pays comme les Pays-Bas, comme on dit, les Pays-Bas, eh ben, sont en danger. Parce que s'il y a beaucoup d'eau, l'eau va encore s'élever au-dessus du pays, eh ben, ça va finir par dépasser les digues et remplir le pays et devenir inhabitable. Alors, on verra le Fils de l'homme. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Quand vous voyez certains sauvetages, vous constatez quelle est la grâce de Dieu. Des gens qui sont coincés dans leur véhicule. Moi, je me suis toujours posé la question, comment est-ce qu'on peut être coincé dans sa voiture? Et la voiture se remplir d'eau et qu'on n'a pas eu le temps d'en sortir. Mais ce que j'ai vu tomber hier, j'étais de ce côté-ci, ça m'a tout simplement coupé le souffle. L'eau a presque rempli la rue là-bas en haut, l'eau descendait comme véritable rivière. Et pourtant, ça, c'est rien par rapport à ce qui tombe ailleurs. Mais ça peut arriver un jour ici en Belgique. Vous pouvez être surpris par la pluie. Vous sortez juste du magasin, il y a du soleil, le temps d'arriver dans la voiture, charger le coffre, vous entendez la grêle qui commence à tomber et puis un déluge qui vous tombe dessus. C'est quelque chose d'incroyable, en une vitesse incroyable. Tout ça, en regardant cela, en vivant cela hier, la question c'était, Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous montrer? Alors, si Dieu veut nous montrer que sa venue est proche, préparons-nous. Préparons-nous, sa venue est réellement proche, parce que ces choses qui semblaient être tout à fait impossible à arriver, eh bien, ça arrive aujourd'hui. Ça pouvait soulever le sourire, mais ça arrive aujourd'hui. Qu'on vivrait des temps sodomiques aujourd'hui, il y a 30 ans, il y a 40 ans, on n'y croirait pas. Mais aujourd'hui, ça existe. Vous voyez? Quand ces choses commenceront à arriver, exhortation du Seigneur, redressez-vous et levez vos têtes. Parce que votre délivrance approche. Non, nous n'avons pas à nous lamenter, nous n'avons pas à nous, comment dirais-je, à nous angoisser. Ce qu'il y a, nous devons lever nos têtes. Nous devons regarder vers lui, vers le Seigneur. Nous sommes dans une attente paisible. Pourquoi? Parce que nous sommes prévenus, nous sommes avertis. Et en tant qu'avertis, nous prenons les dispositions qu'il faut pour pouvoir être prêts, n'est-ce pas? C'est-à-dire, si on sait que la pluie tombe, va tomber tout à l'heure, la meilleure des dispositions à prendre, c'est d'avoir son parapluie ou d'avoir de quoi se couvrir pour la pluie. Ça va? À moins que vous ne vouliez être trempé. Et Dieu, le Seigneur lui-même, il nous... Le Seigneur lui-même nous prévient pour que nous ne soyons pas perturbés ni troublés. Il nous dit, ne soyez pas troublés, que ces choses, lorsqu'elles arriveront, qu'elles ne vous troublent pas, parce que vous êtes prévenus. Ces choses annoncées d'avance sont en train de s'accomplir. Nous réalisons surtout que la parole de Dieu ne ment pas. La parole de Dieu dit la vérité. Amen. Et c'est un privilège qui est réservé aux élus. Nous parlons de l'élection. Vous savez, beaucoup de gens seront surpris. Mais l'apôtre dit, les élus ne le seront pas. Pourquoi? Parce qu'ils font attention à cela. Nous, on ne laisse pas les choses se passer disant, ça a toujours été comme ça, comme au temps de Noé. Et maintenant, les choses sont en train d'évoluer et nous les voyons bouger. Dans 1 Thessaloniciens, l'apôtre dit ceci aux Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens chapitre 2 ou chapitre 1er. Verset 2, chapitre 1er. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières. Nous prions les uns pour les autres. Prions pour tous les saints, pas seulement de l'Assemblée, mais dans le monde entier. Tous ceux qui attendent le Seigneur. N'oubliez pas, ces choses vont s'accomplir jusqu'à ce que la totalité des nations soit entrée. Il y a certainement les derniers arrivants que le Seigneur attend. Alors prions pour que ceux-là entendent la voix du Seigneur et qu'ils viennent au Seigneur, parce que ce qui va arriver, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon à vivre. Et nous rendons donc, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élu. Alors, il dit, notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. C'est pourquoi lorsque nous nous réunissons pour écouter l'évangile, prions pour que l'Esprit Saint nous parle. Prions que celui qui parlera soit conduit par le Saint-Esprit. Qu'il soit ministre ou qu'il ne soit pas ministre, si nous voulons écouter, si nous devons écouter, que le Saint-Esprit le fasse parler. Parce que le Saint-Esprit a déjà parlé même au travers d'un âne. Oui. Alors, dans nos rassemblements, pas seulement ici, même dans nos maisons, si nous avons quelques exhortations à nous faire, prions pour que cela se fasse par l'Esprit. Et Dieu nous parle, Dieu donc, et que nous puissions en parler avec la puissance du Saint-Esprit. Toujours ces élus de Thessaloniciens, et Thessaloniciens, un chapitre premier toujours, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, pardon. Il dit, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Vous, les élus, on n'a pas besoin de vous dire que Jésus viendra le 17 septembre 2024. Ça va. On n'a pas besoin de recevoir la date. Nous devons reconnaître sa venue par les temps par lesquels nous courons, nous passons. Les temps par lesquels nous vivons. Dans lesquels nous vivons. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. C'est pourquoi nous disons ce qui se passe quand Poutine menace une guerre nucléaire, nous ne nous effrayons pas. Parce que tant que cette parole n'est pas accomplie, il ne peut pas utiliser le nucléaire. Il ne l'utilisera pas. Mais il l'utilisera, si c'est toujours lui qui est vivant à ce moment-là, il l'utilisera au moment M, n'est-ce pas, à l'heure H, l'heure que Dieu lui dira d'utiliser. Nous ne craignons pas Poutine. Nous regardons à ce que la parole de Dieu dit et nous nous conformons à elle. Et quand les hommes diront paix et sûreté, ils vont vraiment être à l'aise, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs. Ce que nous vivons pour le moment, ce n'est que le commencement des douleurs. Mais retenons ceci, l'épouse sera enlevée dans ce commencement-là. Parce que l'épouse n'attendra pas, n'est-ce pas, n'attendra pas que ces choses, cette destruction-là arrive. L'épouse sera déjà partie. Et pendant ce temps, c'est la terre qui va subir la colère divine. Au travers des hommes eux-mêmes, ils vont s'entretuer, ils vont s'envoyer des missiles de plus en plus destructeurs. Ils vont se faire la guerre alors qu'ils pouvaient être frères et toutes ces choses vont arriver. Le monde va vers sa ruine. Mais pour le moment, on se bat pour la paix. Mais lorsque on dira paix et sûreté, ce sera le moment le plus dangereux pour ceux qui resteront. Ne soyez pas journalistes disant que ah, on a dit paix et sûreté, maintenant la ruine soudaine va s'abattre. Soyez de parmi ceux qui sont partis. Hein, de l'enfant surprenne la femme enceinte et ils n'échapperont point. Verset 4, nous avons lu tout à l'heure que les Thessaloniciens sont des élus, et on dit, mais vous, comme dimanche, nous avons vu, vous au contraire, n'est-ce pas? Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Pourquoi? Parce que vous êtes tous des enfants de la lumière. Vous avez la lumière. Quelle est cette lumière? Psaume 119. Verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, n'est-ce pas? Hein? Et en elle était la lumière. Hein? Dans Jean chapitre 1er, c'est ce qui est dit. Hein? Et c'est cette lumière-là qui vous éclaire, qui fait que parce que vous avez cru, vous avez été engendré par la parole, qui est une semence. Vous êtes désormais des enfants de la lumière. Hein? Jean chapitre 1er, verset 6, il y a un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, n'est-ce pas? Afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, Jean n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière. Comme on le dit souvent, ce néon qui nous illumine ici, ce n'est pas ça. Ce n'est pas de ça que la Bible parle. La Bible parle de la lumière qui nous éclaire dans les ténèbres de ce monde. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Donc, vous êtes des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Nous sommes dans cette attente paisible parce que nous sommes prévenus, nous sommes éclairés. L'obscurité ne nous entoure pas. Ce qui se passe autour de nous, pour les incrédules, ça se passe dans les ténèbres. Ils ne comprennent pas que Dieu est en train d'accomplir sa parole, mais nous, nous le comprenons. C'est ce qui fait la différence entre vous et moi. Et c'est ce qui, entre vous et moi et eux, pardon. Ouais, c'est ce qui fait la différence parce que Dieu nous donne à comprendre pourquoi ces choses arrivent. Pourquoi on n'a plus des étés comme on en avait avant? Pourquoi on n'a plus des hivers comme on en avait avant? Tout se dérègle, cela se dérègle à cause de l'œuvre de l'homme. Et l'homme, partout où il touche, hein, il y a quelque chose, il doit toujours y mettre du sien qui finit par dérégler les choses. Même ici au-dessus de la Terre, dans l'atmosphère, tous les satellites qu'ils envoient là posent des problèmes. Maintenant, ils ont deux hommes là-bas dans l'espace. Ils sont en train de se battre, de se demander comment les ramener sur la Terre. Et les satellites sont presque là en train de s'entrechoquer. Mais toutes ces choses qui posent, les satellites qui posent là, c'est grâce à ça que vous avez des GPS, hein, les satellites. Donc, par satellite, donc, les satellites vous montrent quel chemin prendre lorsque vous allez d'un point A à un point B. Mais toute la construction de l'homme conduit toujours à des problèmes. Tandis qu'avec Dieu, ça se passe tout à fait naturellement. Les enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Vous savez, quand il a fallu aller prier pour cette femme qui pleurait pour son enfant, son fils qui était en train de s'en aller, elle disait, je ne veux pas qu'il s'en aille dans ces conditions-là. Et que le frère, lorsque Dieu a bloqué l'avion pour que l'avion ne décolle pas, le frère n'a pas eu besoin de GPS. Hein. Il ne connaissait pas la ville. Mais l'esprit l'a conduit, va tout droit, va à gauche, va à droite, et ainsi de suite, jusqu'à l'endroit où il devait aller. Ananias, dans Actes chapitre 9, lorsque Paul a été frappé, n'est-ce pas? Ananias, Dieu lui dit, Jésus, le Seigneur lui dit, va dans telle rue, il y a un homme là, à tel endroit, qui est mon serviteur, qui est mon outil, n'est-ce pas? Que je veux, mon instrument que je veux utiliser. Il est la lumière des nations. Il s'agissait de Paul, dans la rue appelée la droite. Et vous qui avez reçu la parole, maintenant vous allez me dire, oui, mais la parole est donnée partout. Oui, mais la différence entre vous et les autres, vous qui avez cru en ce message du temps de la fin, c'est que vous avez la parole de votre temps. La parole qui produit, qui vous parle des événements de votre temps. Sinon, vous allez rester avec la parole du temps de Noé. C'était une bonne parole du temps de Noé, mais nous n'avons pas à construire une arche pour échapper au danger qui arrive. Le déluge qui est tombé hier, je n'ai pas besoin d'une arche en bois de gopher pour m'en sortir. Si jamais ça s'aggrave. C'était valable au temps de Noé. Au temps de Moïse, il y a eu aussi des choses qui devaient s'accomplir pour que la parole de Dieu s'accomplisse. Dieu avait fait une promesse à Abraham et il avait dit à Abraham, écoute, tes descendants vont rentrer. Ils vivront dans un pays étranger, mais ils seront asservis et ils vont rentrer. Ils ont été asservis pourquoi? Si vous regardez bien, lorsque Jacob a pris toute sa famille, il est parti en Égypte lors de la famine, comme Joseph était, disons, le premier ministre à l'époque, celui qui avait le pouvoir, le pharaon lui avait donné tout le pouvoir, Joseph, on a donné à Jacob et à ses fils, on leur a donné les meilleures terres à Goshen. Ils avaient les meilleures terres. Alors évidemment, une fois installés dans les meilleures terres, ils n'ont plus pensé à rentrer. Donc, quand Dieu dit ils iront dans un pays étranger, certainement, mais Abraham était un croyant. Mais quelqu'un d'autre qui aurait été un incroyant aurait dit, mais non, ils ne quitteront jamais ici ce pays où coule le lait et le miel, Canaan. Mais non, ils vont jamais quitter. Dieu sait faire, il est le maître des temps et des circonstances. Il sait provoquer les circonstances qui vont faire que Jacob va émigrer en Égypte. Et lorsqu'il a émigré en Égypte, il y était tellement bien. Bon, Jacob est mort, ses descendants sont morts. Ils sont morts en Égypte. Jacob aussi est mort en Égypte, mais il a été enterré en Canaan. Tandis que les autres patriarches, ils sont morts et enterrés là-bas. Et les descendants, ils sont restés, ils étaient très bien. Quand il y avait de l'obscurité ailleurs, à Goshen, il y avait de la lumière. Ils y étaient très bien. Mais finalement, il y a eu un pharaon, Dieu a suscité un pharaon qui n'avait pas connu Joseph. Et quand ce pharaon qui n'avait pas connu Joseph est monté sur le trône, il a asservi les enfants d'Israël. Il les a tellement bien asservis qu'ils ont pensé à rentrer. C'est pourquoi lorsque Moïse est allé avec son message disant « Venez, le Dieu de vos pères m'a envoyé », il pouvait s'accrocher sur la promesse que Dieu avait faite à Abraham 400 ans plus tôt, disant que je vais les ramener dans ce pays. Et nous aussi, nous nous accrochons à sa promesse qui dit qu'il viendra nous chercher afin que là où il est, que nous y soyons aussi. Lorsque nous entendons justement ce message qui nous parle de nous préparer pour sa venue, nous nous accrochons à ce message parce que nous croyons, nous voulons être dans cet enlèvement. Et Pierre dit ceci, c'est la parole prophétique, hein. Ça, c'est très important, cette parole prophétique, dans 2 Pierre, chapitre 1er, l'apôtre dit au verset 15, « Mais j'aurai soin qu'après mon départ, après ma mort, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement, donc la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. N'est-ce pas? C'est ce que nous disons toujours encore, c'est que les Pierre, Paul, Jacques, tous ces anciens-là, du temps des apôtres, ils sont morts persécutés. Ils ont été jusqu'au bout de leur foi parce que Satan, Dieu savait que Satan, dans les âges à venir, allait dire qu'en fait, c'était une blague. Ils faisaient juste du théâtre entre eux. Non, ils nous montrent à quel point leur foi était sincère. À quel point ils étaient sûrs de ce qu'ils prêchaient. Parce que celui qui n'est pas sûr, au premier crible, à la première secousse, qu'est-ce qu'il va faire? Il va fuir, il va s'en aller. Mais par contre, celui qui en est certain, il reste. Il reste accroché à ça. Les moqueurs peuvent venir, ça ne l'ébranle pas. L'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire quand la gloire magnifique et lui fit entendre une voix qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Parce que le Dieu saint est descendu sur la montagne. Hein, la montagne n'allait pas vénérer cette montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. L'apôtre dit, par le Saint-Esprit, vous faites très bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Pendant que nous sommes à un temps où les nations sont angoissées, pendant que nous sommes dans un temps où les nations sont perplexes, inquiètes, eh bien, nous sommes dans la paix. Nous attendons, la parole de Dieu nous dit, calmez-vous, Jésus arrive. Cela nous remplit de joie. Plus eux, ils s'inquiètent pour le climat, plus nous nous réjouissons. Pas parce que le climat se réchauffe, nous nous réjouissons parce que ça annonce la venue du Seigneur. Et c'est ce qui nous réjouit. Ce n'est pas le réchauffement climatique qui nous réjouit, c'est la venue du Seigneur qui nous réjouit. C'est ce qui vous réjouit, vous, c'est ce qui me réjouit, moi. Parce que je sais une chose, maintenant, en voyant toutes ces choses arriver, je vois combien cette parole est précieuse, combien cette parole est certaine, combien cette parole est véritable. Vous n'avez pas cru à une fable, vous n'avez pas cru à quelque chose de vain, mais vous avez cru en une véritable parole de Dieu. Par le Dieu qui connaît la fin dès le commencement. Prions le Seigneur. Oh, Père Céleste, nous te remercions ce soir parce que dans les ténèbres qui couvrent la terre aujourd'hui, où l'homme ne sait pas très bien où il va, de quoi sera fait demain, l'homme est inquiet. L'homme, oh, pose des regards inquiets, s'interroge comment sera le climat pour ses descendants. Nous savons qu'il y a des nouveaux cieux, une nouvelle terre que tu as préparée. Tu nous en parles dans ta parole. Nous savons que ces choses que l'on dit, ces espèces qui sont menacées d'extinction ou quoi que ce soit, tout ce que tu as créé au commencement subsistera. Parce que toi, tu feras revenir ces choses selon tes promesses. Et nous te remercions de nous de nous ouvrir les yeux pour que nous puissions voir, réaliser les temps dans lesquels nous vivons. Et nous puissions voir également, parce que nous avons la possibilité de voir cet avertissement qui nous est donné. Oh, que nous faisons bien, n'est-ce pas, de prêter attention à cette parole prophétique. Et nous te remercions, comme nous le chantons, pour cette parole que tu nous as envoyée. Nous te louons et nous te louons. Sois béni, Père, sois loué. Merci de nous sortir de ces ténèbres, de nous faire voir ces choses et aussi de nous montrer comment sera réellement la fin, comment tu essuieras les larmes de nos yeux, comment le boiteux pourra marcher, comment nos infirmes seront guéris, comment nos morts seront ressuscités, comment, oh, lorsque tu nous fais voir toutes ces choses par la foi, comment nos aveugles recouvriront la vue, comment, oh Dieu, nos sourds entendront, Père, les muets chanteront tes louanges, nous te sommes infiniment reconnaissants pour toutes choses. Merci pour la foi que tu donnes, et c'est par la foi que tu nous sauves, et c'est un don gratuit qui vient de toi. Te remercions de ce don merveilleux que tu nous as fait. Sois béni, sois loué. Maintenant, pendant que nous voyons ces choses arriver, aide-nous dans notre préparation, conduis-nous dans notre méditation, que nous puissions méditer les choses de telle manière que cela nous pousse à nous préparer comme il se doit. Nous te remettons tout entre les mains et si tu tardes à venir, nous te demandons de nous assister encore dans les réunions à venir et si tu viens entre-temps, que nous soyons trouvés prêts à partir avec toi. Nous te remettons également notre frère entre tes mains, toi qui as le baume de Galade, que tu le raccompagnes également au Congo. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons prié. Amen. Dieu vous bénisse.